France Culture. Philippe Mérieux, bonjour.
Bonjour.
C'est le cinquième et dernier épisode. On va essayer de tenir les délais, même si on a encore beaucoup de pain sur la planche, et surtout l'école a beaucoup de pain sur la planche. Vous parliez dans l'épisode précédent, l'épisode 4, du fait qu'il n'y a pas d'école idéale, mais peut-être un idéal d'école. On l'a bien entendu, votre idéal d'école. J'aimerais peut-être aujourd'hui qu'on mette les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on parle de la réalité et des nouveaux défis. L'école aujourd'hui et demain, c'est peut-être les travaux d'Hercule. Il y en a peut-être même 12, plus que 12 des travaux d'Hercule. Déjà, on peut partir d'un livre qui est le dernier en date que vous avez publié, Philippe Mérieux, paru en septembre 2024, sous le titre « Éducation, rallumons les lumières », paru aux éditions de l'Aube, qui se présente comme un cri d'alarme contre ce que vous appelez le grand renoncement que représentent les politiques scolaires actuelles. Alors il faut dire qu'on sort, ou on est encore dans une longue série de réformes du système depuis les années 90-2000, 2005, 2010... 2013, 2016, 2019, 2021, beaucoup de réformes, et je pourrais développer, mais on n'aura pas assez d'une demi-heure. Déjà, quel regard portez-vous sur ces réformes successives? Est-ce que c'est la priorité pour vous de l'école aujourd'hui de réformer, parfois on parle de réformette, mais de réformer, d'effacer ce qu'on a fait précédemment, de refaire en permanence? Est-ce que c'est la bonne façon de s'y prendre, et est-ce que ces réformes sont indispensables?
Une métaphore peut-être pour répondre à votre question. Moi, j'ai le sentiment que l'école ressemblerait à un grand porte-avions ou un paquebot, et on passerait son temps à tenter de réparer dans la cale une fuite ou quelque chose qui va pas, sans se demander quelle est la destination. Il reste au port. Il reste au port parce que, dans le fond, la confiance dans l'école, la finalité de l'école pour la nation n'est pas claire, et qu'on fait des réparations de rustine, quand il faudrait, à mon avis, s'interroger sur le cap à tenir et donner à ce cap une visibilité suffisante pour qu'il convainque à la fois les professeurs, les parents, qu'il convainque les parents que l'intérêt de l'école et l'intérêt de l'école de la nation est peut-être aussi important que l'avenir individuel de chacun de leurs enfants, et qu'il convainque l'ensemble des citoyens que l'école, c'est l'avenir et qu'il faut y investir et que ça n'est pas de l'argent perdu que d'investir dans l'avenir.
De quoi est-elle malade, cette école? Vous parlez de réparation. Qu'est-ce qui devrait être réparé? Si je prends un certain nombre de points que j'ai listés, soit vous piochez, Philippe Mérieux, soit vous les prenez en globalité. Baisse du niveau général. D'ailleurs, on vous a souvent reproché par rapport à l'émission d'hier d'être responsable de cette baisse du niveau général. Baisse du niveau général que mesurent chaque année les tests internationaux comme les enquêtes PISA. Responsabilité des écrans et évidemment des réseaux sociaux. Démission des parents. Inégalité. Dévalorisation du métier de professeur. Stress, pression sur les élèves. Violence à l'égard des enseignants. On le voit depuis ces dernières années, une violence extrêmement forte à l'égard des enseignants. Problème d'attention. Bon, un essayiste a publié un livre disant qu'on fabriquait des crétins. Peut-être que le mot est bien trop excessif, on ne va pas revenir là-dessus. Mais qu'est-ce que vous diriez, vous? De quoi l'école est-elle malade? Et d'ailleurs, est-elle malade, au fond, ou est-ce qu'on n'est pas en train de, là encore, caricaturer la situation?
Moi, j'utiliserai pas le terme malade. Je pense que l'école est un peu à l'arrêt. Elle est un peu en manque de dynamique. Et donc, les gens font plus ou moins bien leur travail. Il y a une forme de dépression collective. On voit pas très bien où on va, mais on le fait. Et puis, c'est un peu comme dans un naufrage. C'est le sauve qui peut. Chacun essaye de trouver une solution qu'il satisfasse, qui pour sa carrière, qui pour ses propres enfants. Et face à cela, moi je dirais qu'il y a quelques priorités, vous les avez énumérées, je ne peux pas toutes les reprendre. Peut-être que la première priorité, c'est la question des inégalités. L'école française creuse les inégalités. Nous fabriquons, entre guillemets, quoique le terme est évidemment très malvenu, mais nous fabriquons d'excellents élèves que les États-Unis nous envient. et parfois qu'ils réussissent à récupérer dans l'enseignement supérieur, mais nous laissons aussi un certain nombre de zones que nous appelons pourtant d'éducation prioritaire à l'abandon. Inégalité due assez largement au manque de mixité sociale dans les établissements. C'est un gros chantier. C'est un chantier sur lequel Najat Vallaud-Belkacem avait avancé. C'est un chantier qui a été rouvert par Padiaye. C'est un chantier qui me paraît absolument fondamental parce que il y a une sorte de fracture scolaire, de dérive des continents entre des établissements bien dotés et qui, au fond, scolarisent des élèves qui n'ont pas beaucoup de mérite pour réussir puisque ils sont issus de milieux assez favorisés qui les encouragent à cela, et puis des établissements qui concentrent toutes les difficultés. Alors j'évoquais l'éducation prioritaire, c'est une superbe aventure lancée par Alain Savary au moment où il est arrivé au ministère.
Dans les années 80.
Voilà, et qui disait il faut donner plus et mieux à ceux qui ont moins. Alors on a souvent entendu le plus, on n'a pas toujours entendu le mieux à ceux qui ont moins, mais en réalité on donne même pas plus à ceux qui ont moins. Parce que quand on regarde un collège d'éducation prioritaire et qu'on regarde ce qu'il coûte aux contribuables en intégrant les salaires et qu'on divise le coût du collège par le nombre d'élèves, on s'aperçoit qu'un élève d'éducation prioritaire, en dépit du fait que le collège va bénéficier d'heures supplémentaires, coûte moins cher que le collège de centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'en éducation prioritaire, c'est là qu'il y a tous les contractuels, tous les vacataires qui sont moins bien payés, tous les professeurs débutants en début de carrière qu'on nomme là, qui sont moins bien payés. Et donc en réalité, nous continuons à investir sur ceux qui sont les plus favorisés et à laisser plus ou moins à l'abandon ceux qui sont en grande difficulté. Et ça, pour moi, c'est une vraie question.
Mais prendre les inégalités à la racine, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, ça voudrait dire quoi ?
Alors, d'abord, les inégalités ne se traitent pas qu'au plan scolaire. Il faut traiter évidemment la question du logement, toute une série de questions, la question de l'urbanisme, hein, bien sûr. Ça voudrait dire peut-être pour l'école proportionner la dotation des établissements aux difficultés sociales des élèves. Alors, quand je dis ça, je dis quelque chose d'apparemment assez technique. En réalité, c'est une vraie révolution. Ça veut dire que le lycée Henri IV sera moins doté que le collège Makarenko de Créteil.
Aujourd'hui, vous n'allez pas vous faire que des amis
c'est
encore.
C'est évidemment une fois. L'inverse. Aujourd'hui, le collège Henri IV est bien mieux doté. Si on prend son budget consolidé, salaire compris, un élève d'Henri IV coûte beaucoup, beaucoup plus cher élève d'éducation prioritaire.
Mais Henri IV forme l'élite de la France.
Bien sûr, et on a besoin d'investir sur Henri IV, mais allons dans le sens d'un peu de justice. Ceux qui ont le plus besoin de nous sont aujourd'hui ceux qui sont le plus abandonnés. À l'époque où on a créé les prépas, on a investi dans les prépas, on a déchargé massivement les professeurs parce qu'on disait on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de cette élite dont vous parlez. Aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin d'intégrer dans la République des enfants qui se sentent les exclus de cette République, qui n'en voient pas l'intérêt, qui n'en voient pas le sens, et qui peuvent, d'un instant à l'autre, basculer dans le terrorisme, basculer dans les addictions, basculer dans la délinquance. Les priorités, elles sont là aujourd'hui. Les priorités, elles sont là. Si la France veut construire cette nation qui lui tient à cœur, il faut, je crois, qu'elle se donne cette priorité. Donc, mixité sociale dans les établissements. Et cette mixité sociale, il faut la travailler pédagogiquement. Il faut une pédagogie de la coopération. C'est-à-dire, il faut que dans les classes, on puisse travailler ensemble, hein, et pas simplement juxtaposer les uns à côté des autres. Vous savez, les États-Unis ont vécu dans les années 70-90 des moments très difficiles. Ils avaient supprimé la ségrégation scolaire, ils avaient mis dans les mêmes établissements les élèves issus de plusieurs origines différentes, et ils se sont aperçus qu'il suffisait pas de les mettre dans le même établissement, qu'il fallait une pédagogie par laquelle ils apprennent à se respecter, à coopérer, à travailler ensemble. Et cette pédagogie, il faut la construire. Alors aujourd'hui, il y a des tas de gens qui travaillent là-dessus, mais...
Et cette mixité sociale a été travaillée depuis quelques années, en tout cas, à Paris, en tout cas, dans la capitale.
Oui, bien sûr. Il y a eu toute une série d'efforts qui ont été faits et qu'il faut évidemment louer. Mais il faut l'accompagner d'un travail pédagogique. Il suffit pas de mettre des gens côte à côte. Il faut que ces gens se parlent. Il faut qu'à la fois ils se respectent et qu'ils apprennent à fabriquer du commun.
Bah donc là, on passe de l'autre côté. On passe du côté des enseignants. Comment former
les
enseignants?
On passe du côté des enseignants. On passe du côté des pratiques. On passe aussi du côté de l'architecture. Il faudrait des établissements où on sorte un peu de la boîte à chaussures, hein, qui est aujourd'hui la salle de classe, pour trouver des formes qui soient plus adaptées à des coopérations entre élèves, avec des alvéoles où on peut travailler en groupe, des grands amphis où on peut écouter ensemble des conférences. Donc il y a toute une réflexion à mener pour déconstruire et reconstruire ce que nous appelons la forme scolaire. La forme scolaire, au fond, c'est ce qui a été inventé non pas par Jules Ferry, mais par Guizot, hein, dans les années 1830. Quand Guizot arrive au pouvoir, il existe en France globalement trois types d'écoles. Des reliquats de l'école, on va dire, de l'Ancien Régime, qui était une école très inefficace, où le maître enseignait individuellement dans un espèce d'espace clos en récoltant les collages, c'est-à-dire l'argent donné par les parents. Il y avait des écoles dites simultanées, qui étaient fondées sur le modèle imposé par Jean-Baptiste de La Salle, et puis des écoles mutuelles. Alors, entre les écoles simultanées et les écoles mutuelles, il y a un débat, une opposition qui se crée dans les années 1830. L'école simultanée, c'est 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose, en même temps, sous l'autorité du maître. L'école mutuelle, c'est 80, 100 élèves avec 2-3 enseignants, d'âge différent, les élèves, 7 à 15 ans, qui travaillent par petits groupes, les aînés enseignent aux plus jeunes. Il y a une forme de stimulation, on utilise des outils pédagogiques. Alors, ces deux modèles existent, cohabitent dans les années 1830, et Guizot va interdire le modèle mutuel pour imposer le modèle simultané. C'est-à-dire pour imposer cette idée qu'une école, ça doit être 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps sous l'autorité du maître. Et il a tellement bien réussi qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens ce que c'est que l'école, au lieu de vous dire c'est un lieu où on apprend ensemble, où on se coltine avec la culture, avec les exigences des programmes, ils vous disent c'est des classes de 30 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps. C'est-à-dire que la forme scolaire a pris le dessus sur la finalité de l'école. Et je pense que reprendre la finalité de l'école, c'est se dire l'école transmet. Elle transmet des savoirs par différents moyens. L'école permet aux élèves d'apprendre ensemble et pas simplement d'apprendre. Déjà, Ferdinand Buisson disait, si on m'expliquait qu'il y a un moyen plus efficace que l'école d'apprendre, mais qu'on apprenne tout seul, je préférerais qu'on apprenne moins bien, mais qu'on apprenne ensemble. Parce que le ensemble est aussi important que apprendre.
Est-ce que c'est ça, Philippe Mérieux, ce que vous avez appelé, dès les années 70, la pédagogie différenciée?
Alors, ça peut être ça. La pédagogie différenciée, nous l'avons imaginée avec des gens comme André de Peretti, comme Louis Legrand, pour répondre à un défi très simple, partager les mêmes savoirs avec des élèves différents, ça impose de diversifier sa méthodologie, d'offrir une multitude de prises. Alors j'emploie le mot prise, y compris avec la métaphore de l'escalade. Il faut que chacun trouve la prise qui lui convient au bon moment. Et nous avons mené beaucoup de recherches, beaucoup de collègues ont travaillé là-dessus, qui montrent que un enseignant qui diversifie ses méthodes, qui emploie le travail individuel, le travail collectif, qui a des phases de travail expérimental, qui emploie la manipulation d'un côté, qui fait un travail sur la construction de l'abstraction de l'autre, c'est-à-dire qui diversifie, il offre une multitude de prises, et ça c'est quelque chose d'assez formidable, parce qu'on s'aperçoit que au fond, c'est ça qui va rendre les savoirs les plus accessibles à toutes et tous. Oui, c'est ça la pédagogie différenciée, mais on pourrait dire que cette expression est devenue un peu discutable aujourd'hui.
Voire peut-être obsolète.
Voire peut-être obsolète.
Sous l'effet de l'intelligence artificielle qui quand même voilà. Ne peut pas aujourd'hui sur un certain nombre de pédagogies.
Absolument. Donc, il y a une sorte de songerie qui se développe aujourd'hui. Alors, elle n'est pas d'aujourd'hui. On en trouverait des exemples dans la science-fiction depuis bien longtemps. Une songerie qui laisse entendre que, au fond, avec ce qu'on appelle le learning analytique, qui consiste à analyser en quelque sorte le fonctionnement cérébral d'un sujet et à combiner cela avec les programmes scolaires, on pourrait produire des sortes de logiciels individuels qui permettraient à chaque élève d'apprendre tout seul, d'une manière strictement adaptée à son individualité, devant son écran. Tous ces écrans reliés à un gigantesque serveur, probablement situé sur les îles Caïmans, pour être défiscalisés. Et donc, cette songerie-là, on voit bien qu'elle peut titiller un peu nos contemporains. Je pense en particulier à tous ceux et celles qui s'interrogent sur l'école inclusive et qui disent « Oui, mais attendez, les professeurs, ils sont pas capables de traiter les dysphasies, les dyslexies. Chaque élève est singulier. » Peut-être que les ordinateurs, c'est mieux. D'abord, ça s'énerve pas, un ordinateur. Ça répète la même chose. Puis un certain nombre de gens ajoutent que l'ordinateur, bon, ça se met pas en grève, ça n'a pas de congé maladie, il y a pas de problème de jour de carence, c'est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et que on le remet à jour beaucoup plus facilement qu'on ne forme les professeurs. Et donc il y a cette songerie, je pense qu'on ne la réalisera jamais, mais cette songerie qui occupe un petit peu les esprits aujourd'hui, d'un enseignement qu'on pourrait en quelque sorte confier entièrement au numérique. Alors pour moi, ce serait évidemment une catastrophe absolue. Catastrophe absolue parce que le collectif disparaîtrait complètement. Le « ensemble » dont nous parlions passerait à la trappe. Catastrophe absolue aussi parce que ce qui se transmet dans une classe, c'est pas simplement du savoir. C'est le désir de savoir. C'est le rapport au savoir. C'est quelque chose dans la vibration même de la parole de celui qui anime cette classe. C'est un regard, c'est un appel, c'est toute une série de petites choses qui font que l'élève se sent embarqué dans un collectif solidaire et appelé par un adulte à partager des savoirs avec lui.
C'est un peu la différence entre regarder un film chez soi sur son écran personnel, individuel, et aller au cinéma.
Tout à fait, c'est la différence,
théâtre, dans
bien
une
sûr.
Salle de théâtre.
Il y a à l'école un rituel particulier.
Une expérience commune.
Une expérience commune et une expérience avec une forte dose de symbolique qu'il ne faudrait pas oublier. Il y a aussi ce rôle essentiel de l'enseignant qui institue, l'instituteur. Je raconte parfois cette anecdote au moment où Lionel Jospin a créé les professeurs d'école en 1989. Il y avait d'un côté les instituteurs, de l'autre côté les professeurs. Et il a aligné les rémunérations et il a décidé d'appeler les instituteurs professeurs d'école.
Ah, ça date de 1989,
ça? Oui, 1989. Et moi, j'avais suggéré à l'époque, plutôt que d'appeler les instituteurs professeurs d'école, appeler les professeurs instituteurs de français et de mathématiques. Parce que pour moi, ça a du sens, instituteur. Instituteur, c'est institué.
Oui, mais il n'y a pas que le français et les maths.
Les maths, l'histoire, la géographie,
la
botanique.
D'accord. On m'avait fait peur.
Oui, bien sûr, toutes les disciplines. Et donc, instituer l'humanité dans l'homme. Il y a un très beau roman de François Mauriac qui s'appelle Le Sagouin, qui se termine par un éloge de l'instituteur, celui qui institue l'humanité dans l'homme, qui donne à l'autre le courage d'apprendre, de s'engager dans l'inconnu, qui l'appelle, qui lui donne la confiance aussi pour faire des choses qu'il ne sait pas faire et qui sont difficiles à faire, mais qu'il va tenter de faire pour savoir les faire. Cet appel-là, il est profondément humain, et imaginer que la machine pourra un jour se substituer à ça me paraît particulièrement dangereux.
Bon, dans cette petite liste que j'ai donnée des défis qui se posent à l'école ou peut-être des difficultés aujourd'hui de la réalité scolaire, et évidemment, c'est pas une liste exhaustive, hein, je tiens à le dire, mais il y a peut-être un sujet qui est important ces dernières années, c'est celui de la pénurie des enseignants, Philippe Mérieux.
Oui, et c'est un sujet très grave à mes yeux. Une société qui ne sait pas donner envie à ses jeunes de s'investir dans l'éducation est quand même une société qui doit se poser la question. Alors, pénurie, bien sûr, à cause d'un manque de reconnaissance salariale, très clairement, mais sociale aussi. Le sentiment qu'ont les professeurs aujourd'hui, qu'au fond, on a cherché à un peu monter les parents contre eux, hein, et qu'ils sont plus reconnus pour la mission qui est la leur. Mais au fond, cela touche tous les métiers de l'humain. Aujourd'hui, on a une grande pénurie dans les métiers du travail social, dans les métiers de l'animation, dans un certain nombre de métiers de la santé, parce que tous ces métiers de l'humain ont été, je crois, ces dernières années, particulièrement technocratisés. C'est-à-dire que la dimension proprement humaine du métier, sa finalité essentielle, c'est un peu dilué. Et j'entends souvent des directeurs d'école ou des directrices d'école me dire que ils aimeraient bien faire de la pédagogie, mais qu'ils passent beaucoup de temps à répondre à des enquêtes et à remplir des tableaux Excel. Et ça, c'est quelque chose que les collègues vivent mal. Le sentiment que on n'entend pas réellement ce qui est le cœur du métier. Et je pense que c'est une des raisons, parmi d'autres, de la pénurie à laquelle nous avons affaire, avec aussi, et nous en avons déjà parlé, ce manque de clarté sur les finalités du système scolaire.
Est-ce que, par exemple, Philippe Mérieux, quand vous étiez à la tête de l'IUFM, vous alliez dans les classes avec les enseignants, enfin, venez avec des cas pratiques, est-ce que vous y alliez ?
Oui, bien sûr. J'allais dans les classes et même parfois je mettais la main à la pâte. Hein, bien sûr, y compris au sens propre, puisque j'ai contribué à diffuser cette méthode pédagogique de Georges Charpak, la main à la pâte, sur l'éducation scientifique précisément. Oui, bien sûr. Moi, je suis très sensible au quotidien et au concret des classes. Les collègues m'ont beaucoup appris de ce côté-là et j'ai beaucoup appris d'eux. Par exemple, l'équilibre difficile d'un professeur entre la planification, il faut qu'il construise son cours en amont, et puis la prise en compte de l'événement, il y a tel élève qui rippe à tel moment. Ben, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on fait? J'ai beaucoup appris des professeurs sur la tension entre la finalisation, il faut motiver les élèves, mais aussi il faut à certains moments s'arrêter et se dire qu'est-ce qu'on a appris, il faut faire le point. J'ai beaucoup appris de cette capacité que doivent acquérir les collègues et qui est toujours à remettre en chantier, à être l'expert, c'est-à-dire celui qui pose le bon geste au bon moment. Hein, le bon geste au bon moment. Je dis toujours, ce qui se passe dans une classe à l'instant T ne s'est jamais passé avant et ne se repassera jamais après. Et donc ce qui se passe là, ça m'appelle, ça m'interpelle et il faut que je réponde précisément à ça. Et aussi bien moi en tant qu'enseignant que moi en tant que visiteur dans les classes ou que animateur d'analyse de cas, j'ai toujours été sensible à la décision pédagogique et à la formation de nos collègues à prendre la bonne décision au bon moment. Vous évoquiez la question de l'écran dans l'introduction tout à l'heure. Cette question va devenir une question fondamentale. Elle est déjà question fondamentale. On sait que l'écran érode l'attention. On sait que l'écran inverse le rapport entre l'intention et l'objet en ce qui concerne la lecture, par exemple. C'est plus le sujet qui pilote l'objet, c'est l'objet qui finit par piloter le sujet. On sait que l'écran rend très difficile la concentration sur un propos. On sait aussi quels sont les bons contrepoints à l'écran. Le bon contrepoint à l'écran, c'est le travail manuel. Hein, mon collègue Matthew Crawford aux États-Unis, qui est à la fois prof de philo et réparateur de motocyclettes, a montré depuis déjà quelques années que le vrai contrepoint à l'écran, c'est la mécanique, la menuiserie, c'est le fait de jouer d'un instrument de musique. C'est tout ce qui va permettre de créer ce qu'il appelle des dispositifs attentionnels, c'est-à-dire de recréer la focalisation du sujet sur un objet et de permettre la rencontre avec quelque chose qui nous résiste. Je remarque avec beaucoup d'inquiétude et de tristesse que, à l'instant où tous les chercheurs savent aujourd'hui l'importance de ce travail manuel, de cet investissement dans l'élaboration de quelque chose, l'école n'en prend pas le chemin. Quand il faut supprimer une heure de quelque chose, c'est une heure de technologie en sixième. Et cela m'attriste profondément. Vous évoquiez la question très compliquée de la laïcité, des problèmes de société, du conflit de loyauté entre les familles et l'école. Je crois que l'école a un rôle fondamental, c'est de permettre la mise à distance. La mise à distance, l'interrogation, le contraire du slogan, voilà. Le contraire du slogan, le contraire de la théorie du complot. L'école n'est pas là pour combler le désir de savoir, je le dis souvent, mais pour susciter le désir d'apprendre. L'intelligence artificielle comble le désir de savoir. Hein. Vous interrogez ChatGPT, il vous donne immédiatement ce que vous voulez savoir. Vous êtes comblé, vous arrêtez là. Votre téléphone portable, vous l'avez dans votre poche, vous vous promenez dans la nature, vous clichez sur une, vous photographiez une plante, vous devez savoir instantanément et vous savez instantanément comment elle s'appelle, d'où elle vient, etc. L'école n'est pas là pour combler le désir de savoir, elle est là pour susciter le désir d'apprendre, c'est-à-dire pour permettre à l'enfant d'aller plus loin, d'interroger ce qu'il croit savoir, pour aller vers ce qu'il doit savoir, créer cette curiosité qui fait qu'il ne se satisfait jamais d'une représentation, qu'il va chercher toujours à aller plus loin, qui va se mettre en quête de vérité, qui va toujours être habité par l'exigence de plus de précision et de justesse dans ce qu'il dit. C'est cette dynamique-là qui est importante, cette dynamique de l'élève qui cherche, qui veut aller plus loin, qui ne s'en tient pas au slogan, qui s'en tient pas à une schématisation du monde et qui est habité par ce désir d'aller vers le vrai sans jamais prétendre posséder totalement à lui seul la vérité.
En 2012, Philippe Mérieux, à la fin du livre que vous avez écrit avec le journaliste Luc Sédel, qui est un livre d'entretien intitulé « Un pédagogue dans la cité », vous écrivez « Je crois que par les temps qui courent, l'éducation pourrait bien être une condition essentielle de la reconstruction du politique ». Est-ce que c'est plus vrai que jamais, cette école qui prépare à la démocratie ?
Oui,
devrait le faire en tout cas.
Ouais, les pédagogues ont dit souvent ça. Ils l'ont dit en 1921, nous le disions dès notre première émission, 1921, premier congrès de l'éducation nouvelle. Ils l'ont dit au moment du Front populaire, ils l'ont dit au moment du plan Langevin-Wallon, qui est un texte superbe, magnifique, qui malheureusement est resté totalement dans les limbes. J'espère que l'éducation peut encore quelque chose.
Vous désespérez pas?
Non, je désespère pas. Je cite souvent cette phrase d'Adorno dans sa fameuse conférence éduquée après Auschwitz, qui dit « Nous devons croire que l'éducation peut encore quelque chose ». Alors, « nous devons croire », ça veut pas dire qu'on le sait et qu'on en est sûr. C'est-à-dire « nous devons le croire » parce que sinon, il vaut mieux... tout de suite aller se précipiter du haut de la falaise. Nous devons croire que l'éducation peut encore quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'elle peut tout, mais qu'elle peut quelque chose. Et elle peut quelque chose parce que, je vais dire quelque chose de très trivial là, mais c'est ma pratique d'enseignant du quotidien qui me fait dire ça. Un seul mot, un seul geste peut changer un être. On ne le sait pas. On ne le sait jamais sur le moment. Et la plupart du temps, on ne le sait jamais. Et un être peut changer le monde, voilà. Alors, désespérer de l'éducation, ce serait désespérer du monde. Moi, je ne veux pas m'y résigner, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut répéter que l'éducation est une chose sérieuse et que tout le temps qu'on y consacre, c'est du temps gagné sur l'avenir.
Merci beaucoup, Philippe Mérieux.
Et merci à vous.
Pour ces 5 entretiens.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Philippe Mérieux, réalisation Manouchak Fachahi, prise de son Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.